Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
L'été 2022, plus que jamais, celui du dérèglement climatique, des gigafeux en Gironde, une sécheresse intense qui touche toute la France. Et quand on n'est pas en été, eh bien on nous parle de pollution de l'air, de pollution des eaux, de l'épuisement des ressources, de la surpopulation. Ça finit par nous stresser, par nous rendre fous. Ça s'appelle l'éco-anxiété et nous en parlons tout de suite avec Pierre-Éric Sutter, psychothérapeute et philosophe, co-auteur du livre « N'ayez pas peur du collapse » aux éditions Des Clés de Brouwer. Bonsoir.
Bonsoir Raphaël.
Alors l'éco-anxiété c'est quoi? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est un terme médicalement reconnu? Est-ce que je peux le placer dans un dîner mondain pour briller en société?
Alors c'est pas encore reconnu par l'OMS, hein, mais il y a beaucoup de recherches qui datent depuis des recherches scientifiques depuis la fin des années 90. Et aujourd'hui, les scientifiques se mettent d'accord sur une définition qui est la suivante: une détresse psychique et mentale face aux enjeux climatiques et environnementaux. Donc c'est vraiment une détresse, un mal-être, mais ça ne peut pas être qualifié encore comme une psychopathologie.
Alors, vous avez des patients dans votre cabinet qui viennent vous en parler? Il y a des symptômes précis?
Oui, tout à fait. Il y a quatre séries de symptômes. Des symptômes affectifs avec des manifestations anxieuses. C'est pas parce qu'on est anxieux qu'on développe une anxiété au sens psychopathologique. Mais néanmoins, il y a des manifestations anxieuses, donc avec des scénarios en fait que les gens se font, hein, prospectifs. Il y a des symptômes affectifs, des symptômes comportementaux et puis des symptômes liés à l'investissement que les gens voient d'eux-mêmes pour la planète ou pas.
Donc quand on voit quelqu'un qui ne jette pas son papier dans la rue, ça nous effraie typiquement? Il y a une forme de misanthropie comme ça?
Alors peut-être pas pour le papier, mais c'est vrai que les éco-anxieux commencent à s'isoler de leur famille quand ils voient par exemple que leurs proches prennent l'avion pour aller en week-end à Marrakech par exemple, ça les terrorise, oui, parce que ça provoque des rejets de gaz à effet de serre et ça peut les couper de leur famille parce que effectivement ils se mettent soit en colère, soit en tristesse, avec des manifestations comme ça qui font qu'ils vont être en conflit avec leur famille.
Alors, c'est un syndrome moderne qui touche, je le suppose, plutôt les jeunes, non, Pierre-Éric Sutter?
Alors, c'est un peu l'idée reçue qu'on pourrait avoir, parce que c'est vrai que les jeunes ont plus leur avenir devant eux que les quinquas ou les cadras. Mais moi, dans ma patientèle, force est de constater que j'ai des trentenaires, des gens qui ont 40 ans, des quinquas, pas que des jeunes. Et c'est pas forcément les jeunes qui sont les plus touchés, hein, qui sont plus en souffrance.
Alors, dans votre cabinet, on parle beaucoup de politique, quoi, d'inaction climatique?
Alors, on parle pas tellement de politique. C'est vrai que parfois, certains sont effarés par le manque d'inaction de nos hommes politiques et de programmes qui font plus office de greenwashing plutôt que de réels programmes pour le climat, en faveur du climat. Mais c'est vrai que, avant tout, les éco-anxieux éprouvent une peur assez colossale pour l'avenir à la fois de l'humanité, de la planète, des espèces. Et un peu pour eux, quoi. Mais c'est surtout, ils voient vraiment toutes les conséquences au niveau global, si vous voulez, pas seulement pour eux-mêmes.
Alors, l'éco-anxiété, et ça peut inquiéter, peut provoquer de la violence également chez ceux qui en souffrent.
Alors, oui, tout à fait.
On voit les militants écologistes de plus en plus véhéments, voyez?
Oui, tout à fait, c'est ça. Il y a de plus en plus d'éco-anxieux qui militent, surtout les plus jeunes. Et c'est vrai que c'est important de militer. Alors, c'est comme toute chose, il y a un versant positif et un versant plus négatif. Si on milite, on va dire, trop violemment et en s'isolant trop de son cercle familial, de ses amis, et voire de la société, on va faire de l'entre-soi, on va être un peu à part. Et le risque, c'est qu'on sombre dans la dépression. Je suis enseignant en psychologie. J'ai une de mes étudiantes qui a fait un très beau travail en master de recherche en psychologie. Et elle a montré, en étudiant 700 militants, que si leur militantisme devenait une passion obsessive, ils sombraient dans la dépression. Alors que ceux qui en faisaient une passion harmonieuse étaient plus dans une forme de bien-être où ils sentaient une forme d'utilité sociale. Parce que le problème du militant qui voit que son militantisme ne débouche sur rien, il n'a pas l'impression d'être utile et ça menace l'estime de soi et donc ça menace sa santé mentale.
Alors comment on remédie à l'éco-anxiété, quoi? On éteint la télé, on n'éteint pas la radio. Hein. On éteint la télé parce qu'on est abreuvé d'informations déprimantes. Hein, je prends l'exemple des feux de Gironde, hein, dont on a beaucoup parlé sur notre antenne.
Alors, l'éco-anxieux est de toute façon quelqu'un de très très bien informé. Il est tellement bien informé qu'il est un peu au courant de toutes les mauvaises nouvelles. Et comme ce n'est pas forcément des bonnes nouvelles qui priment, il est assailli par les mauvaises nouvelles. Et donc, les mauvaises nouvelles engendrent des émotions négatives, comme la colère, la tristesse, des manifestations anxieuses, voire de la déprime. Et pourquoi pas, ça peut les emmener vers la dépression. Donc, la première chose à faire, c'est plutôt de moduler les informations, de contrebalancer les informations négatives avec les informations positives, car il y a quand même des informations positives. On peut trouver ça et là, et j'invite d'ailleurs tous mes patients à aller faire des recherches par eux-mêmes, trouver des exemples très intéressants de gens qui ont mené des combats en faveur du climat ou de l'environnement et qui ont gagné. Qui ont gagné ces combats en faisant progresser, par exemple, notamment en arrêtant certaines pollutions ou en arrêtant certaines dégradations de l'environnement. Donc, il y a des combats qui fonctionnent. Alors, évidemment, ils n'arrêtent pas la fonte des glaciers ou de la banquise, mais ils arrivent quand même à mener des combats qui sont favorables vis-à-vis de l'environnement.
Alors, Pierre-Éric Sutter, est-ce que ça ne sont pas les militants écologistes eux-mêmes qui nous rendent anxieux? Vous voyez, il y a une personnalité qu'on voit très souvent à la télévision, c'est Greta Thunberg, qui est toujours très, très alarmiste.
Tout à fait. Alors, évidemment, c'est le fait de militer, c'est de ressasser toujours les mêmes choses. Mais les éco-anxieux ne sont pas tous des militants, loin s'en faut. C'est surtout des gens qui sont très, très bien informés de ce que les scientifiques ont documenté depuis une cinquantaine d'années sur le climat. Alors, au départ, c'était assez épars comme information. C'est devenu beaucoup plus systématique et tout le monde maintenant connaît les rapports du GIEC, ou presque. Et les rapports du GIEC, depuis 30 ans, documentent les événements liés au dérèglement climatique et derrière aux impacts sur l'environnement. Et tous mes éco-anxieux sont des gens qui connaissent sur le bout des doigts ces rapports, sont très très bien informés. Et donc, ce qui ressort de l'éco-anxiété, c'est que c'est pas du tout un mal-être qui serait irrationnel, dont la cause serait irrationnelle. Par exemple, quelqu'un qui est anxieux, qui a un trouble anxieux, c'est quelqu'un qui va avoir des peurs disproportionnées par rapport à la réalité des choses, comme par exemple avoir peur de traverser la rue parce qu'il aurait l'impression de se faire écraser en permanence. Même si ça peut arriver, hein, mais c'est disproportionné, c'est en sens là que ça devient rationnel. Alors qu'un éco-anxieux, lui, la cause est parfaitement rationnelle. Et en plus, donc, c'est-à-dire, c'est par exemple le réchauffement climatique, et cette cause-là qui n'était pas très visible il y a encore 5 ans, maintenant, vous l'avez annoncé tout à l'heure, avec 4 canicules, donc 4 événements caniculaires en un seul été, on commence à en voir vraiment les manifestations. Hein, et puis, alors celle-là, elle est très visible par tout le monde, mais les manifestations sont moins visibles. Comme par exemple, j'ai une patiente éco-anxieuse qui m'avait dit à l'âge de 30 ans que, en 15 ans, elle avait vu disparaître tous les poissons multicolores qu'elle voyait en faisant de la plongée simple sur les côtes de Méditerranée, et que, à l'endroit où elle plongeait quand elle était adolescente, elle ne voyait maintenant plus rien, plus aucun poisson, en 15 ans à peine.
Alors en fait, éco-anxiété, c'est un terme un peu triste, un peu péjoratif. Est-ce qu'on pourrait pas le remplacer par en fait conscience écologique, tout simplement?
Tout à fait. Moi, je préfère dire éco-clairvoyant, quand bien même l'anxiété, enfin les manifestations anxieuses sont une partie de la manifestation de ce que vivent les éco-anxieux. Moi, je préfère dire qu'ils sont éco-clairvoyants, parce que ce sont des gens qui ont vraiment une préscience de ce qui est en train d'arriver, parce qu'ils s'appuient sur les travaux des scientifiques. Et les faits montrent qu'effectivement, ce qu'ils me disent depuis, pour certains, plusieurs mois, plusieurs années, est en train de s'actualiser dans le réel. Donc, ça n'est pas une élucubration, c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Donc, ils ont une préscience des problèmes climatiques qui sont en train d'arriver.
Alors, il y a une expression de l'éco-anxiété que vous avez évoquée tout à l'heure et qui, moi, à titre personnel, m'attriste et m'inquiète, c'est la détresse affective. On parle beaucoup de la surpopulation, de l'effet terrible de la surpopulation sur le réchauffement climatique. Les éco-anxieux vont plus faire d'enfants, Pierre-Éric Sutter?
Alors c'est un peu ce qui se passe au démarrage, c'est-à-dire qu'effectivement les éco-anxieux se disent d'avoir un enfant, ça pollue en fait, puisque un enfant, comme n'importe quel humain, il mange, il fait ses besoins, effectivement, acheter des couches, même si les éco-anxieux font attention à ne pas acheter des couches qui polluent la planète, ça coûte de l'argent et ça nécessite malheureusement de dépenser, de prendre des ressources dans l'environnement. Mais à ce moment-là, si on fait ça, il n'y a plus d'espoir pour l'humanité. Et c'est surtout parce que j'essaye de dire à mes patients, c'est de leur faire prendre conscience qu'au contraire, plus les éco-anxieux se reproduiront et moins il y aura de gens qui ne voient pas les problèmes. Et plus on sera clairvoyants et plus on sera tous ensemble, conscients de ce qu'il faut faire pour agir en faveur de l'environnement et non plus en sa défaveur. et les éco-anxieux savent agir comme il faut. Alors évidemment, tout seul dans leur coin, ils ne peuvent pas faire grand-chose, et c'est pour ça que je les invite à cheminer vers un éco-projet qui soit collectif et même sociétal et qui fasse sens dans la société pour l'aider à réaliser sa transition écologique. Donc en gros, les éco-anxieux, c'est des éco-ambassadeurs de la transition écologique, et grâce au travail thérapeutique qu'on fait, on les sort de ce risque de la dépression vers laquelle les emmène l'éco-anxiété, pour les remettre sur le cheval de l'action.
Bah oui, il faut faire des enfants et puis les éduquer, voilà, à la conscience écologique, c'est bien ça.
Exactement.
C'est le remède magique à l'éco-anxiété en fait.
Tout à fait, d'autant qu'il y a des études qui montrent que la Terre peut porter 14 milliards d'humains et les nourrir. Mais évidemment, on ne peut pas les nourrir avec un régime américain en mangeant des steaks tous les jours. Il faudra passer un peu à un régime beaucoup plus végétarien pour pouvoir nourrir 14 milliards d'humains.
Et nous sommes près de 8 milliards actuellement. Merci beaucoup Pierre-Éric Sutter, c'était passionnant. Je rappelle que vous êtes psychothérapeute et philosophe et j'invite nos auditeurs à lire le livre dont vous êtes co-auteur, « N'ayez pas peur du collapse ». C'est aux éditions des Clés de Brouwer. Merci beaucoup, Pierre-Éric Sutter.
Merci, Raphaël. Bonne soirée.
Revenez quand vous voulez sur Europe 1.
Dans avec plaisir.
Dans quelques instants, le débat de ce soir. Faut-il interdire la corrida ? Nous serons avec Émeric Caron, député NUP de Paris, et l'ancien torero, l'ancien matador André Viard. À tout de suite.